Et vous écoutez France Culture. La souffrance physique brutale contre laquelle s'écrase toute forme de réflexion. Elsa Marpeau. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui reçoit ce soir la romancière Elsa Marpeau à l'occasion de la parution en série noire des Corps brisés, une exploration romanesque des prestiges du corps, tour à tour outils virtuoses, matériaux en souffrance et marchandises d'abattoir. Chronique en second temps avec notamment Twin Peaks Redivivus et l'exposition Topor à la BNF. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre consacré ce soir à l'actualité du polar, mais pas que, mais pas seulement, puisque nous parlerons, comme je vous l'ai dit, de l'exposition Topor avec vous, Paco Mthielman, et puis on parlera aussi de Twin Peaks avec le même Paco Mthielman.
Ou son double.
Voilà, ou son double, ou son triple même. Je salue sans plus tarder Elsa Marpeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre invité, vous étiez déjà venu peut-être pour les 30 ans de la série.
Exactement,
les 50 ans,
enfin les 10 ans.
Les 70 ans de la série noire, je me souviens, c'était à l'époque pour ce roman sur les femmes tondues à la Libération.
Absolument, et ils oublieront la colère.
Ils oublieront la colère, on avait déjà évoqué votre univers, on va savoir un peu plus ce soir avec ces corps brisés donc qui paraissent à la série noire et qui justement sont une sorte de grande méditation à la fois esthétique et presque philosophique sur le corps en lui-même, le corps humain, la manière de s'en servir, de le vivre, de le subir et la manière qu'il a d'être utilisé parce que là, il y a un contre-champ tragique assez redoutable. Bonsoir Élise Lépine.
Bonsoir François.
Avec vous, bien évidemment, l'actualité polar, donc les corps brisés, c'est une chose, puis aussi une chronique.
Une chronique. Donner le titre. Justice soit-elle de Marie Vindy, un polar féministe.
Un polar féministe, ben ça se tombe très bien, puisque ce soir, il va être question justement de la défense vigoureuse du corps féminin. Et pas comme tellement, je reviens à lui.
Hello.
Tout va bien. Donc, pour Topor à la BNF, on sait.
Alors, la défense du corps féminin ou masculin, c'est là, zéro, là, pour Topor.
Oui, avec Topor, là, vous êtes gâtés, là, effectivement.
Bon,
le corps en crise, le corps soumis à tous les traitements possibles.
Ça reste thématiquement relié.
Voilà, et carnavalesque au plus haut point, c'est ce qui nous plaît à mauvais genre. On parlera aussi de Twin Peaks, sur lequel j'imagine que vous avez une lecture extrêmement aiguë.
J'espère.
Voilà. On signale également une autre exposition. Alors, je la cite bien que je sois partie prenante, puisque j'ai rédigé un petit texte pour le catalogue, à l'exposition à la galerie Corinne Bonnet. À partir du 17 juin, la bibliothèque de Babylone. Mais de quelle bibliothèque et de quelle Babylone s'agit-il? Puisque tout ça a beaucoup bougé. On connaît celle d'Alexandrie.
Enfin,
on connaît son fantôme. On connaît celle de Paris, celle d'Oxford. Et là, Babylone.
Il faut imaginer que c'est dans un monde miroir, dans un univers parallèle. À Babylone, il y a une bibliothèque dans laquelle il y a les livres qui ont été perdus dans ce monde, détruits dans ce monde, ou simplement fantasmés par leur auteur. Donc en fait, dans cette exposition, il y a 18 livres, ça va de Pièces perdues de Eschyle et Sophocle à simplement un titre dans une liste de Baudelaire ou le grand roman brûlé de Sade après sa mort, Les Journées de Fleur Belle. Pour chacun de ces livres, j'ai commandité à un artiste de génie, un imagier extraordinaire, une couverture. Il y aura l'original de cette couverture, il y aura la couverture maquettée par Rocco, qui est un maquettiste hors pair, et il y aura les textes qui présentent ces livres, et il y aura aussi deux textes de mes amis et maîtres, voilà, dont vous, François.
Bon, voilà, bah,
vous verrez.
La bibliothèque,
venez à la galerie Corinne Bonnet,
Babel, celle de Babylone. Les livres possibles et impossibles selon Paco Mthielman. Mais avant cela, bien sûr, ouverture solennelle de l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et à quelle lettre ce soir, chère Céline?
À la lettre G, G comme Godemiché, pour cet ouvrage intitulé Histoire merveilleuse et édifiante de Godemiché, écrit par l'abbé du Laurence. C'est une petite curiosité littéraire à laquelle j'aimerais vous convier, un texte libertin du XVIIIe siècle dont le titre même a de quoi stupéfier. Titre ambitieux, qui, je dois dire, tient absolument toutes ses promesses. Mais avant de vous en dire un peu plus sur la vie véridique du vrai Godemiché, il faut que je vous donne quelques indications biographiques sur son auteur, l'abbé du Laurence, né en 1719 et mort en 1793. L'abbé nous apprend que ses contemporains avaient un physique peu facile, aussi court que replet, physique qu'ils compensaient par un esprit vif, agile, une intelligence aux flèches assassines, volontiers colérique, souvent cynique. L'abbé ne brillait pas par son amabilité. Ce caractère bien trempé lui valut bien des déboires. Élevé très chrétiennement chez les jésuites, puis chez les chanoines de la Trinité, il réussit à se faire haïr et se mettre à dos à peu près tout le monde. Il finit par quitter la vie monastique et mit sa plume au service de sa cause, des pensées nouvelles, en cette période de philosophie des Lumières, alliée à un goût prononcé pour la grivoiserie et la paillardise. On lui doit entre autres le Compère Mathieu ou les Bigarrures de l'esprit humain, son ouvrage le plus célèbre, ainsi que L'Arétin moderne, dont est extrait le récit d'aujourd'hui. Des publications qui ne lui portèrent pas vraiment chance puisqu'il connut l'exil, la Bastille et fut condamné à perpétuité pour cause d'ouvrage impie en 1767 et mourut 27 ans plus tard en captivité. On le voit, une vie laborieuse, difficile, mais qui tranche avec le style vif et enlevé du récit, histoire merveilleuse et édifiante de Godemichet. L'histoire est la suivante. Le directeur d'un couvent s'amourage de Sœur Conception et triomphe de sa vertu. De peur que la belle nonne ne tombe enceinte, il part consulter une sorcière qui lui annonce qu'elle n'accouchera pas d'un enfant mais de Godemichet. Cet enfant, je cite, « l'image de la virilité, sera le consolateur des filles et l'allègement des misères de la grille ». Je vous passe les étapes de la grossesse et les douleurs de l'enfantement, la chose étant assez grivoise et liée à une histoire alambiquée de fabrication de boudins de mandragore, mais arriva l'heure où la nonne accoucha de Godemichet, qui, contrairement au commun des mortels, ne fut pas obligé de passer par le stade de l'enfance. Il s'électrisa, prit aussitôt l'âge de la puberté et courut se glisser vers un endroit, écrit l'abbé du Laurence, que la pudeur m'empêche de nommer dans un siècle où la décence est un si beau mot, et fit ainsi le délice des nonnes et de l'abbesse. Mais malheureusement, la vie de Godemichet fut de courte durée. Je vous livre ici sa fin tragique. À peine Godemichet eut-il rempli de son onction la mère abbesse qu'il s'envola sous le jupon d'une jeune novice. La nonne tomba à l'instant dans cet état charmant qui rend les mortels égaux aux dieux. « Ah, cœur !» s'écria-t-elle. « Oh, plaisir ! Je meurs, j'expire, attends, finis, non, continue !» Un silence enchanteur succéda à ce barbouillage. Bref, Godemichet, comme un papillon volage ou comme un français, voltigea de nonne en nonne et les combla de plaisir. Fatigué de tant d'exploits, le héros tomba à terre. Une vieille discrète le ramassa et, croyant le ranimer dans son sein comme elle avait vu faire à son abbesse, elle ne fit que hâter le moment de son trépas. Le valeureux Godemichet, épuisé de fatigue et saisi par le froid qui le prit subitement dans les tétons secs de la douairière, expira. Pour nous consoler, sachez que le talent de l'abbé fut reconnu, tout de même, après sa mort. Les frères Goncourt eux-mêmes surent apprécier sa plume acérée. Ce Dieu Laurence, écrivirent-ils, a été un esprit rare et redoutable. Derrière cette parade licencieuse, ce rire et cette polissonnerie, il y a une idée armée. Dans ce farceur, il y a un parti, la raison du XVIIIe siècle. Histoire merveilleuse et édifiante de Godemichet et autre histoire de l'abbé du Laurence est publiée dans la collection des cahiers de curiosité aux éditions Marguerite Wagnin.
Merci, chère Céline, pour cet André Godemichet ou cette entrée Abbé du Laurence de notre encyclopédie pratique des mauvais gens. Ça a l'air de vous mettre en joie, tout ça, pas comme tellement.
Ah oui, beaucoup.
Les aventures de Godemichet, le bel abbé libertin.
Ça fait très Charlie Schlingo aussi.
Voilà, c'est ça.
C'est très bande dessinée comique des 70 en général. Même. C'est très, j'étais surpris, je me demandais même si c'était un ouvrage authentique, mais oui, il faut croire.
Il semblerait.
Celui-là vient pas de Babylone.
Elsa Marco, vous qui avez une formation on ne peut plus classique, normalienne, agrégée, avec une thèse sur le théâtre du 17e. Vous êtes laissé aller un peu aux folâtres années du 18e, aux libertins.
Alors, j'en ai lu, en effet. Alors, je ne sais plus combien c'était. Je vais dire une bêtise sur le chiffre, mais c'était l'art de foutre en 10 000 manières. Ouais. C'était aussi assez joli, parce que ça s'intéressait énormément à la jouissance féminine. Donc, on voyait comment faire jouir sa partenaire de... Alors, je dis 10 000, mais je crois que c'était moins quand même. De 10 000 façons. Assez intéressante en général, avec des schémas.
Élise Lépine.
Le 18e, siècle des contrastes, avec d'un côté ces plaisirs libertins et de l'autre les folies sadiennes. Donc effectivement, on est dans le sujet de notre...
Oui, on est dans le sujet, quoi que ce soit, effectivement. On va peut-être retrouver un peu une dimension sadienne, mais sur un mode sûrement moins piquant, moins libertin, moins folâtre que dans les œuvres de l'abbé du Laurence, et ce, grâce à Elsa Marpeau, avec ses corps brisés qui paraissent en série noire. Maxwell Sterling, un choix de Laurent Polleret en ouverture de notre playlist de mauvais genre de ce soir. Ouais, pas comme tellement, on a l'impression d'un bon générique de film, de thriller. Là, on avance entre les arbres en direction de la clinique du docteur méchant. Là. C'est très, très extrêmement efficace quant à notre sujet de ce soir.
Alors, on voit la forêt, on voit la voiture.
Un petit peu Elsa Marpeau ce soir. Je répète ce que je viens de dire, formation très classique au départ, rien ne vous... Rien ne vous amenait à publier des choses affreuses dans la série noire d'Aurélien Masson, puisque donc vous êtes normalienne, agrégée. Donc au départ, une formation classique, un goût pour les lettres au sens traditionnel,
classique, l'humanisme. Ouais, ouais. Non, classique, mais quand même, j'ai fait une thèse sur le 17e, c'était sur le côté obscur un petit peu, c'était sur le hors-champ, sur le hors-scène.
Et donc, qu'est-ce qu'il y a hors-champ au 17e?
Et justement, c'est que ça, tous les meurtres et tous les viols qu'on ne saurait plus voir sur la scène. Et donc au XVIIe siècle, il y a, vous savez, la règle des trois unités, donc on doit restreindre l'action, et puis surtout la règle de la bienséance, donc on ne doit plus montrer certaines choses. Mais évidemment, on la donne toujours à imaginer, ce qui au théâtre n'est pas complètement évident, parce qu'un récit au théâtre, c'est ennuyeux. Et pourtant, on donne des très longs récits, et ces récits, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent tout ce qu'on ne peut plus montrer, donc des assassinats très souvent.
C'est un théâtre qui succède quand même à un théâtre baroque, où là on montrait volontiers.
Ah évidemment, mais bien sûr.
On exhibait presque.
Avec, etc. Et justement, l'époque, moi, que j'ai étudiée, on arrête de montrer. Mais on donne à imaginer ce qui, bien sûr, est pire.
Mais d'ailleurs, dans les corps brisés, pendant longtemps, sur la totalité de la durée du roman, on ne montre pas.
On ne montre.
On fait sentir.
Jamais, bien sûr.
On génère une impression, une angoisse, mais on ne dit rien, on ne montre rien. Donc on est un peu dans la retenue. Alors, comment êtes-vous arrivé à cette série noire où vous avez publié, Cathy, je vais citer vos titres, Les yeux déments en 2010, Black Bloc, L'expatrié, Ils oublieront la colère, dont on avait parlé. Comment en arrive-t-on, le cheminement pour aller à la série noire? Vous étiez lectrice de romans noirs en marge de vos
je lis presque que ça, mais bon, Céline, on pourrait dire que ce serait une série noire. Dostoïevski aussi, donc c'était plutôt mes lectures. Après, comment est-ce qu'on arrive à la série noire? Là, c'était vraiment par hasard, parce que j'ai envoyé un livre d'anticipation à Aurélien Masson. Et qui m'a appelé en me disant, ce livre d'anticipation, il rentre pas complètement dans la série noire. Par contre, je vous donne un blanc-seing pour un prochain livre.
Donc, on va mettre XXX. Science-fiction,
Science-fiction politique, avec un monde où il y avait ce que j'appelais des hug plugs, donc où les gens se faisaient des câlins dans des machines. Enfin, pas complètement dans la ligne. Mais Aurélien Masson avait déterminé quand même qu'il y aurait quelque chose.
Il y aurait quelque chose.
Et qu'il allait faire ce pari de publier un livre qui n'était pas encore écrit.
Quelque chose
et qui est devenu Les yeux des morts.
Alors justement, les yeux des morts, on est déjà dans des crimes à l'hôpital, on est déjà dans quelque chose qui croise la violence criminelle et le monde hospitalier. Alors, ça vous a toujours intrigué
A posteriori, j'ai du mal à dire le contraire, même si ça m'avait pas frappé la ressemblance, mais évidemment avec Les corps brisés, ça semble très clair. C'est né le premier parce que j'ai rencontré à un mariage une jeune fille absolument charmante, très bien habillée, et puis que tout à coup elle s'est mise à me raconter sa vie. Elle travaillait au camion, donc elle ramassait des gens qui étaient morts ou qui allaient mourir. Et puis à la Riboisière, elle était dans ce qu'on appelle le déchocage, donc les urgences des urgences. Et en fait, le contraste entre cette charmante petite pépette blonde et puis le métier qu'elle avait m'a beaucoup frappée et je l'ai suivie aux urgences dans ce service-là, le déchocage.
Et dans les titres qui ont suivi, Elsa Marpeau, on est plutôt dans l'histoire, disons, soit très contemporaine, soit contemporaine plus lointainement, avec le Black Bloc, c'est les autonomes,
c'est les radicaux.
Les radicaux, et puis ils oublieront la colère, là c'est autre chose, puisque c'est ce qui est à l'origine de ce roman, c'est pas une rencontre dans un mariage, c'est une photo.
Oui, c'est ça, c'est une photo d'une femme tondue, c'est pareil, c'est toujours le contraste, en fait, c'est une femme qu'on vient de tondre, mais qu'on a tondue qu'à moitié, c'est une photo qui est très célèbre, et qui a une petite robe à fleurs, qui est assez magnifique. Bon, cette fille est très belle. Et puis, il y a cette moitié de cheveux. Donc, j'ai trouvé la violence faite aux femmes, au corps féminin, suffisamment inspirante pour essayer de me pencher un peu là-dessus.
Élise Lépine, votre...
Oui, moi, j'aime beaucoup ce que vous écrivez, parce que justement, on est sur des romans qui sont...
C'est la phrase terrible.
Oh, pardon pour le cliché, c'est vrai,
ce
parfois. Mais parfois, il faut le dire. J'aime beaucoup ce que vous faites, Elsa Marpeau.
Merci, Élise Lépine.
Vous
faites des romans qui sont à la fois sensoriels, on est dans l'attirance des corps, mais aussi dans l'abrasion des corps qui se repoussent ou qui s'attirent, et on est aussi dans une interrogation de l'humain. C'est ça que j'aime bien aussi, de la violence ou de la tendresse qui est faite au corps et à l'âme des humains. C'est ça qui est beau.
C'est ça. Ouais, c'est un peu vraiment le corps dans tous ses états, la fragilité. En fait, on a toujours l'impression que le corps, c'est une enveloppe fermée et que ça va pas se briser, alors qu'en fait, c'est hyper fragile. Il suffit d'un rien pour l'ouvrir, puis découvrir une autre réalité, celle des viscères, par exemple, qui est quelque chose qui nous semble répugnant, et pourtant c'est si proche, c'est caché par très très peu de choses. Donc ça, ça me fascine.
En 2013, un autre titre, là, qui est plus directement autobiographique, Expatrié, peut-on
oui,
dire ?
Ce livre m'est très cher, parce qu'effectivement, il suit une double vie que j'ai entre Paris et Singapour, qui se poursuit encore aujourd'hui. Mais là, j'ai vécu 2 ans entièrement à Singapour. C'était une expérience à la fois géniale et extrêmement douloureuse, très très pénible. Et du coup, je me suis demandé comment en parler. Je me suis dit que j'allais faire une autobiographie, mais qui est évidemment une fausse autobiographie, puisque ça bascule dans le roman noir, dans le polar. C'est un récit d'une plongée dans la folie, plutôt, mais qui utilise tous les éléments de ma vie de l'époque, jusqu'à mon nom et mon prénom.
Et regarde vos thématiques personnelles, justement le corps, le mystère du corps, la violence faite au corps, Singapour, c'est une ville, j'imagine, stimulante et vertigineuse.
Ah oui, je pourrais en parler des heures, c'est complètement fascinant. À chaque fois, bon, j'en pouvais plus, parce que tout le monde me disait Singapour, c'est une dictature, le chewing-gum, etc. Bon,
le chewing-gum.
C'est tellement plus que ça. Alors d'une part, c'est pas une dictature, c'est une démocratie autoritaire, on va dire, mais la nuance est quand même très très forte. Le chewing-gum, oui, bon, très bien, dans la plus grande avenue de Singapour. Après, le reste, il y a des canettes de bière par terre, comme partout ailleurs. Et c'est une ville vraiment, enfin, une ville-pays absolument fascinante.
Donc, comme cadre de l'expatrié, notre invitée de ce soir de Mauvais Genre, Elsa Marpeau. On va quitter Singapour et pour aller dans un endroit peut-être plus riant, plus souriant, plus proche, mais pas moins inquiétant, le cadre donc de ces corps brisés chez Gallimard dans la série noire.
Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Pause plastique, choix de Laurent Pelleret pour nous plonger dans le climat morbide et inquiétant, faussement calme et faussement tranquille, mais champêtre, d'Elsa Marpeau dans ses corps brisés. Alors je vais résumer l'intrigue autant que je puis. Elsa Marpeau, pour pas trop en dire, l'héroïne s'appelle Sarah Lemire, c'est une brillante championne de rallye, mais qui veut à ce point la victoire, qui veut à ce point la gagner sur son rival, Erdi Sturz, que bien un jour elle finit dans le décor, accident tragique, elle tue son copilote, elle s'en sort difficilement, avec coma d'abord, et puis après elle revient difficilement à la conscience, paraplégique, et là, elle est envoyée pour une restauration, au sens fort du mot, une réfection physique, psychique et presque spirituelle, dans un endroit étrange, qui est en montagne, au milieu des prés fleuris, et puis parmi une nature bucolique et fraîche et charmante, chez le docteur Lune, dans un sanatorium qui s'appelle l'Herbe Bleue.
Un ancien sanatorium, c'est un nom barbare, évidemment, c'est un centre de soins de suite et de réadaptation. Voilà. Fascinant lieu aussi, parce que c'est un lieu dans lequel on met toutes sortes de corps brisés, pas uniquement des paraplégiques ou des tétraplégiques.
Et donc là, elle va suivre un traitement très efficace. Elle va croiser des personnalités qui vont la fasciner, notamment Clémence, sa coturne. Comment dire, je parle à la normalienne. sa coturne. Et puis, peu à peu, on va avancer non plus sur une voie royale de la guérison, mais dans une espèce de goulot d'étranglement, de cône de plus en plus étouffant, puisqu'elle va se rendre compte que, ce lieu de réfection amène à des choses de plus en plus troublantes, de plus en plus inquiétantes, et jusqu'à, je dirais, l'horreur finale, sur laquelle on ne dira pas trop de choses. Donc c'est une sorte de progression avec un modèle, là aussi, on voit l'humaniste, qui est Dante, puisque trois parties, le paradis, le purgatoire et l'enfer, bien évidemment. Vous avez même trouvé une traduction de Dante du 19e siècle où il y a le mot « course ». Faut le faire, parce que c'est quand même pas pour arriver à coller avec une championne de rallye.
Ça sert, les études.
Il y avait même une phrase où il y a le chemin de la vie, mais la course de la vie.
C'est, bah oui.
Donc, et au cœur de tout cela, bien sûr, une grande méditation sur le corps, qui lui aussi, chaque moment de cette histoire, configuré aux trois moments de la Divine Comédie, eh bien, incarne un moment du corps. Le corps et la vitesse, le corps qu'il faut refaire. Là, c'est quasiment le corps machine. Et puis après, le corps comme objet de violence. C'était comment vous avez conçu cette triple articulation, ce triptyque à la fois physique et dramatique.
En effet, c'est Dante, mais sauf que c'est Dante à l'envers, parce que Dante, on va plutôt vers le paradis, alors que là, on va plutôt vers l'enfer. Donc, il y a vraiment ces trois temps qui est ce que vous avez dit, d'abord la vitesse, puis l'immobilité. Donc, il y a quelque chose là-dessus de très important pour moi. Sur le corps dans l'ici et maintenant, et puis le corps devenu immobile. Et c'est aussi une réflexion un petit peu sur l'art, sur les dérivatifs au corps. Donc c'est à la fois le corps et à la fois la création. Parce qu'il y a une autre référence très forte, c'est la montagne magique.
Mmh. Oui, autre sanatorium fameux.
Voilà, sanatorium très fameux, enfin. Et c'est vrai que c'est là-dessus, sur ce lieu comme ça, complètement bucolique, hors du monde. Dans lequel on va réfléchir en fait à sa vie, on va se donner du temps et mon personnage, c'est un personnage qui a jamais eu de temps, qui était toujours dans l'ici et maintenant de la course automobile. Donc c'est vraiment un lieu où on est complètement avec la terre, avec juste dans la vitesse, donc jamais dans la réflexion. Et là, tout à coup, Sarah va se trouver immobile dans ce lieu en hauteur, et dans ce lieu en hauteur, elle va réfléchir au sens de la vie, de son existence et de ce que c'est un corps.
Oui, parce que c'est un roman qui est en même temps une méditation sur ce qui est un organisme et une mécanique, parce que effectivement, la première partie m'a fait penser à toutes les tentatives d'exprimer ce que ressent le corps quand il est au cœur d'une machine et qu'il est guidé par une machine. Alors, on a commencé avec Jules Verne, mais il y a aussi les poèmes mécaniques de Claudel, où c'est très étonnant, où il décrit la sensation spécifique du motard, de l'automobiliste ou de l'aviateur, en essayant de faire une phénoménologie du corps et de la machine. Et tout cela, et même Bernanos, dont je crois sous le seuil de Satan, il y a le curé, à un moment, fait de la moto. Et il décrit son extase en voyant le paysage à moto. Donc là, vous avez tenté un peu, justement, d'essayer de dire ce moment où le corps fusionne avec la machine, où tout va très bien, tout fonctionne.
C'est ça.
Les réflexes fonctionnent, la machine fonctionne, tout est parfait. Et après, comme dirait l'autre, la machine n'existe que quand elle est cassée.
Exactement.
Et donc là, vous nous montrez la conscience qu'on a que ça n'est qu'une machine.
Ouais, il y a deux formes d'objectivation du corps. La première, c'est effectivement quand elle est avec sa machine. Elle fait un avec sa machine. Comme vous venez de le dire, la machine, elle est parfaite tant qu'elle marche. Quand elle marche pas, c'est là qu'on commence à la prendre pour une machine et à pouvoir réfléchir dessus. Donc ça, c'est une première façon, un premier corps-objet. Et puis la troisième partie, qui est deuxième façon d'être un corps-objet, donc là c'est le corps dans la souffrance, le corps martyrisé, et puis entre les deux, il y a quand même cette autre façon de réfléchir le corps, c'est le corps-organisme et le corps dans l'art. Donc il y a d'autres façons de s'enfuir de ces deux objectivations qui sont des souffrances, qui sont l'art, et le moment où le corps peut devenir un organisme. Donc, ce livre, il va quand même dans ce sens-là. C'est quand même un récit, pour moi, je l'ai conçu comme un récit initiatique de quelqu'un qui apprend à considérer son corps comme un organisme.
Je vous cite, le corps, son corps, était un outil qu'on oublie comme tous les outils qui fonctionnent.
Ah oui.
C'est ça.
C'est vrai.
pas ponctuellement.
Je ne commenterai pas, je trouve ça formidable.
Mais on le voit pour les ordinateurs, par exemple. Hein. Un ordinateur, c'est parfait tant que ça marche, on n'y pense pas. Puis quand ça commence à ne plus marcher, ben là, on voit l'ordinateur devant nous, il apparaît, il surgit.
Autre citation, dans sa vie de coureuse automobile, elle était un pur prolongement de sa voiture. Un instrument souple, mobile, triomphant, il se glissait dans la caisse, devenait le fil reliant les pédales, le moteur et son cerveau. Il était au service de la course, de la bagnole. Voilà, donc c'est véritablement une sorte d'oubli du corps. C'est un peu comme le plaisir maximum, c'est une sorte, la conscience se dissout et tout. Et puis un jour, à Lise Lépine, le corps se rappelle à vous.
Le corps se rappelle à vous. Et moi, j'avais noté une autre citation, c'est qu'elle devient un animal mythologique fabuleux quand elle est peinte par l'une de ses... Elle devient un animal mythologique fabuleux. Il y a vraiment ces différents états du corps, brisé, reconstruit, fantasmé, sublimé, écrasé. Enfin, c'est ça qui est très intéressant.
Oui.
Car Sarah s'est annulée dans sa douleur. Elle s'y est ensevelie, et pour rien au monde, elle ne veut songer à ce corps ouvert, vissé, cloué, boulonné, recousu, rafistolé de façon si fragile et provisoire qu'elle se sent près de tomber en morceaux. L'accident lui a ouvert les yeux sur la réalité de l'organisme, un assemblage temporaire de pièces mécaniques. Elle a compris le jour où un chirurgien lui a expliqué quel organisme étranger elle avait désormais sous la peau. Vis, clous, boulons, tiges d'acier, ils ont sorti la trousse à outils pour réparer sa vieille carlingue. L'illusion de solidité et de fermeture a volé en éclats. Maintenant, elle ne voit plus en elle qu'un amas de cellules qui n'arrête pas de naître et de crever. De l'épiderme toujours, sur le point de se déchirer. Des liquides prêts à se répandre au dehors, des chairs à brûler, à percer, à défaire, à dévorer, à pourrir. Un extrait de Les corps brisés d'Elsa Marpeau, notre invitée de ce soir dans Mauvais genre sur France Culture. Alors, ça nous mène au deuxième temps de votre roman, Elsa Marpeau, qui est le temps de la clinique. Alors là, il y a à la fois, effectivement, appréhender une deuxième expérience du corps, le corps rafistolé, la machine en pleine révision, en pleine reconstruction, on change ce qui est changeable et on essaie de maintenir en fonctionnement le reste. Et puis, alors, cet endroit qui est idyllique, lumineux, aéré, où il y a un gentil médecin un peu quand même un peu drôlet, qui fait faire non seulement d'exercices de remise en forme, un peu une espèce de replâtrage spirituel, enfin il est un peu adepte du yoga, de choses comme ça, et puis peu à peu, ma foi, ça se lézarde, ça se délite, les choses commencent à devenir un peu glauques, c'est-à-dire que la peinture se met à cloquer, il y a des taches suspectes qui apparaissent sur le blanc. Et alors, comment vous avez... Cet endroit d'abord, est-ce qu'il existe? Est-ce que ce sont des souvenirs? Est-ce que vous avez une expérience aussi de cette inquiétude comme ça qui germe peu à peu dans la tête de la malade?
Alors ça, je peux pas aller jusqu'à dire ça. L'endroit existe absolument. C'est en effet un ancien sanatorium. Donc j'ai trouvé ça vraiment assez fascinant. Après, c'est un souvenir qui est aussi littéraire, encore une fois. C'est celui du sanatorium de Hans Castorp, qui lui aussi va réfléchir entre l'organique et le spirituel, quelque chose comme ça. Donc ça se place sous cette égide, évidemment, je ne me compare pas, hein, bien sûr. Mais c'était quand même une sorte de réponse à ça. Après, il y a une construction autour de trois hommes. Et ces trois hommes, effectivement, c'est le docteur qui propose, comme vous l'avez dit, une sorte de méditation. Donc lui, c'est un peu l'esprit. Il y a aussi l'aide-soignant qui, lui, va lui proposer une autre expérience, qui est celle du corps, celle de l'amour, celle du plaisir. Et puis, celui qui va la soigner vraiment, qui va la réparer, qui s'appelle Luc Ferrier. Et lui qui va lui proposer une réparation et l'espoir éventuellement de pouvoir remarcher un jour. Et donc, sa vie à la clinique va s'articuler autour de ces trois hommes. Et aussi de la femme, donc sa coturne, chambre 34, voilà. qui est la chambre de Hans Castorp dans La Montagne Magique. Et cette femme-là lui apprend l'amitié avec une autre femme, donc quelque chose qu'elle n'a pas du tout exploré parce qu'elle vivait dans un milieu très extrêmement masculin, puis un milieu de compétition. Là, elle va découvrir juste une amitié, une relation égale. Et cette femme est peintre. Elle est légèrement déficiente mentale, donc sa peinture, elle s'inspire de l'art brut. Et là, elle lui ouvre vraiment une autre dimension pour se réparer, qui est la dimension spirituelle.
Avec, après, justement, cette Clémence va disparaître.
Voilà.
Et ensuite, commence alors l'ère du doute, l'ère du soupçon. Et là, il faut distiller des indices. Ce qui est sécurisant cesse de l'être. Ce qui est anodin devient inquiétant. Comment on gère ça? Parce que c'est toujours ces corridors qui mènent à des portes jamais ouvertes, ces fenêtres qui donnent sur nulle part, ces questions auxquelles on ne répond pas.
Oui, c'est la deuxième partie, on pourrait dire, c'est un peu, le thriller commence à devenir plus prégnant, complètement paranoïaque, parce qu'on ignore si elle a raison. Tout se cristallise dans une image qui a un très long couloir qui mène sur une porte. Donc cette porte, c'est la porte des enfers, c'est comme ça qu'on la baptise. Évidemment, derrière cette porte, possiblement il n'y a rien, possiblement il y a la terreur. Et ça reste très, vraiment indéterminé pendant assez longtemps. Et on ne sait pas si Sarah est en train de devenir folle à cause de sa douleur, en fait, de sa tristesse, ou si elle a raison, si vraiment des femmes disparaissent dans cet endroit.
Oui, moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que justement, dans cet endroit, ce sanatorium reconverti en hôpital, on a vraiment l'impression d'être un peu dans une dimension de conte de fées, quoi, avec tout ce que ça a d'inquiétude aussi, puisque y a une forme de charme, de disparition, apparition. Et puis, on a l'impression que cet endroit, c'est une espèce de château en hauteur, presque invisible aux yeux du monde. Donc, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est la façon dont on dissimule finalement ces handicapés qu'on voudrait pas voir, qu'on voudrait cacher aux yeux de la société?
Oui, ça, pour le coup, c'est vraiment comme l'hôpital, effectivement. C'est tous ces endroits clos, très lointains, et qu'on visite jamais, qu'on n'a pas du tout envie de voir. C'est vrai que ces lieux, centres de soins de suite et de réadaptation, comme je disais tout à l'heure, moi j'étais frappée par le type de malades qui sont dedans, parce qu'il y a des vieillards qui vont mourir, il y a des gens qui ont eu un cancer très grave et qui sont en train de se requinquer là-bas, les paraplégiques, les tétraplégiques, des gens qui ont fondu entièrement, donc des très grands brûlés avant leur greffe. Donc c'est un lieu où tous les maux semblent être un petit peu enfermé comme ça.
Et aussi un lieu des vulnérabilités, puisque le fait d'être à l'écart comme ça permet un peu tous les excès. Donc ça...
Oui, et là, c'est vrai que comme je m'inspire d'un fait divers, les victimes de ce fait divers, c'était des victimes extrêmement faibles aussi. Je ne voulais pas recalquer exactement, et j'ai cherché un autre lieu, exactement comme vous dites, de vulnérabilité, de femmes fragiles, de corps fragiles.
Puisque en même temps, c'est un endroit d'extrême confiance. Les gens qui sont là sont totalement démunis, ne peuvent pas réagir, ne peuvent pas riposter et doivent faire une absolue confiance à ceux qui les soignent. Et dès que cette confiance est un tant soit peu entamée, un peu menacée, ça gagne absolument toute la vie du tous les jours. C'est qu'à aucun moment, là, brusquement, on prend conscience que l'on est captif.
Ouais, moi, je trouve que c'est l'expérience de l'hôpital aussi, hein, c'est très proche. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, quand on est très gravement malade, on est à la dépendance totale des médecins, du personnel soignant. Et on est très souvent hyper vulnérable. Et là, je trouve que c'est vrai que pour un thriller, c'est des lieux extrêmement inquiétants, mais on en fait tous l'expérience.
De sa cave éclatent d'étranges orchidées de chair. Elles se déploient jusqu'à occuper l'espace d'obscurité infinie. Elles se penchent en ouvrant leurs mâchoires et en faisant claquer leurs dents. En cassant les barrières, atteindre le pouvoir total, la beauté, l'extase du sacrifice. Le chinois qui sourit de toute la blancheur de ses dents quand on lui arrache les membres, et les ailes et les ailes, et les pattes et les pattes, et le cou. Les orchidées de chair penchent la tête et leur corolle couvre les ténèbres de son tapis jaune. Le chinois, les surréalistes aimaient un jeu qu'ils appelaient « cadavre exquis ». Une histoire écrite à plusieurs mains. Chacun écrivait un mot ou une phrase qu'un autre complétait sans savoir ce qui était écrit avant lui. Après, on déroulait cette étrange histoire collective, Eux, les loups, ils sont pareils. Ils ajoutent leurs blessures, ils volent à la victime une livre de viande, s'inscrivant ainsi dans la ligne des prédateurs. Un extrait des Corps brisés d'Elsa Marpeau. Là, on passe le cap du purgatoire, si j'ose dire, pour entrer dans la phase finale, la phase terminale, alors là, la vraie, qui est la phase infernale, qui est vraiment l'accès assez imprévu, d'ailleurs, parce que les pistes, bon, tout est un peu biseauté, truqué, et on se retrouve effectivement en enfer. Et là, vous vous êtes inspiré d'une affaire célèbre qui nous ramène 40 ans en arrière.
Celle des torturés d'Apoigny, donc c'est dans les années 1980, sans doute déjà 1970. C'est à 5 km de là où vivait Émile Louis, de là où il a tué ses victimes. C'est probablement des victimes parfois qui viennent du même endroit, vraiment très exactement. C'est un couple qu'on a appelé un couple maléfique, qui s'appelle le couple du Nan, qui prend des femmes et visiblement, ça c'est très avéré, mais on ne sait pas combien, qui les torture pour de l'argent, qui les laisse être torturés pour de l'argent. On a retrouvé quelque chose de très marquant qui est une grille tarifée entre des tortures et un prix qui est en francs. Donc, par exemple, une brûlure de cigarette, c'est 20 francs. Et ce fait divers m'a énormément marqué à cause de ce tableau. Donc une équivalence, le corps, il y a une équivalence. Donc tout peut s'acheter et se vendre dans notre monde, même les tortures.
Mais je vais vous poser une question, Elsa Marpeau. On est toujours confronté au corps et aux chiffres dans le roman. Ça commence, c'est la vitesse. Donc il faut faire le moins de... C'est toujours la vitesse, aller le plus vite possible au compteur, faire le moins de temps possible. Donc le corps est lié à un chiffrage. Pareil, quand on le soigne, il y a des doses, il y a des choses. Et là, après, il devient une marchandise. Donc il y a toujours cette espèce d'angoisse quand le corps est articulé avec la computation, du calcul, du matériau.
Alors c'est tellement vrai qu'au départ, le personnage, donc Sarah, ne devait pas être coureuse automobile, mais mathématicienne. Vous voyez à quel point c'est vrai. Et effectivement, donc c'est passé de la mathématicienne qui pensait que chiffres à une coureuse automobile. Donc je suis étonnée que ça se voit si fortement. Et puis c'est aussi le corps marchand, donc un monde où on déteste tellement le corps qu'on peut avoir envie de le détruire pour de l'argent. Il y a aussi toujours cette image des kamikazes que Sarah regarde au début à la télévision. Donc les gens qui se haïssent tellement aussi, qui sont prêts à faire exploser leur corps. Donc il y a quelque chose qui la fascine de plus en plus. Puis elle-même va être confrontée à ça, qui est une image du mal absolu.
Élisabeth.
Oui, une des choses à laquelle on pense, à laquelle moi j'ai pensé, on parlait tout à l'heure de la Renaissance, on parlait du XVIIe siècle, on pense à cette grande question que se posaient les gens au Moyen-Âge et un peu après, où est l'âme dans le corps? Et est-ce qu'on peut la transpercer? Est-ce qu'on peut la sortir? Est-ce qu'on peut l'extraire ou la trouver dans le corps? Et on a l'impression justement que ces fameux tortionnaires cherchent à percer, à détruire aussi, non seulement l'enveloppe charnelle, mais ce qu'il y a à l'intérieur.
Oui, c'est vraiment ce que je me suis demandé, effectivement, en voyant ce tableau, bon, qui va vraiment très très loin. Très probablement, la mort de certaines filles était aussi mise en vente. C'est qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce que ça semble une quête complètement désespérée pour essayer de rentrer, un peu comme dans American Psycho. Il commence, il ouvre un petit peu, il coupe un peu, et puis après finalement il mange le cerveau, parce qu'il n'arrive plus à avoir la fin de tout ça. Et c'est vrai que si on envisage le corps en fonction juste de comment on va l'utiliser, comme une marchandise, il n'y a rien derrière. Donc il commence à y avoir quelque chose que quand on l'envisage autrement. Alors une âme, je ne sais pas, mais en tout cas,
c'est
quelque chose d'autre.
C'est une des possibilités qui apparaît, on cherche.
En tout cas, c'est ce simple fait de mettre une somme à côté d'une souffrance qui crée là justement une espèce de tension telle que là c'est le point focal, le point de fusion du récit, c'est ça l'enfer.
Voilà,
c'est quand à côté d'une souffrance insupportable, on met une somme.
Oui, c'est ça. C'est quand le monde capitaliste a tellement gagné que même les tortures sont à vendre.
À la rencontre donc de cette épopée tragique du corps et des corps grâce à Elsa Marpeau dans Les Corps brisés, série noire, Gallimard.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Cette évocation de l'actualité polar avec vous, Élise Lépine, donc chronique d'un ouvrage paru d'ailleurs dans une collection qu'on peut présenter puisqu'il
une
est
nouvelle
toute récente.
Collection 109 hein, chez Plon, dirigée par Marc Fernandez. Toute nouvelle collection qui vient d'apparaître dans les rayons des librairies depuis
109,
quelques
pas
mois.
Mal. 109, audacieux. Hein.
Voilà, donc « Justice soit-elle » de Marie Vindy. Marie Vindy qui est chroniqueuse judiciaire aguerrie à Dijon. C'est son quatrième roman à la publié.
Ça nous ramène pas loin d'Auxerre alors.
Elle, voilà, oui, on reste dans des régions. Voilà, elle a publié Chienne, son dernier roman à la Manufacture de Livres. Là, c'était les tournantes dans les caves, les viols dans les banlieues. Donc là, elle reste sur un sujet féministe également. Le féminisme, d'ailleurs, s'invite dans le champ du polar, ce qui est une très bonne nouvelle, puisque pendant longtemps, un bon gros viol n'a souvent été que le début d'un bon
comme
vieux thriller. Et pardonnez-moi, mais j'ai pesé
un
cette
bon
phrase.
Gros viol.
J'ai envie de le dire. Un bon gros viol, c'était le début d'un bon vieux thriller. On était bien contents. Au mieux, ça a amené une réflexion sur la cruauté humaine. Au pire, il y avait un rien de concupiscence ou de « elle l'a bien cherché » ou de « c'était une prostituée ». De plus en plus d'auteurs, hommes et femmes, dont Marie Vindy d'ailleurs, amènent dans le polar la question du féminisme et du traitement fait aux femmes aujourd'hui dans la société. Marie Vindy, elle s'est intéressée aussi à un fait divers réel, c'est l'affaire des disparus de Lassis, 12 jeunes femmes tuées ou enlevées dans un rayon de 200 km en Saône-et-Loire entre 1984 et 1997. On a élucidé deux ou trois de ces affaires, le reste sont restés des cold cases, des dossiers enterrés. Alors elle ne raconte pas ces affaires spécifiquement par respect, elle l'écrit pour les victimes, pour les familles qui sont restées dans la douleur et dans l'interrogation. Elle s'en inspire, donc nous sommes en Bourgogne et une petite fille, Laurine, bien campée sur son vélo, on va la suivre tout au long du livre, c'est un peu le rayon de soleil de ce roman très noir, fait la découverte du corps d'une jeune fille dans les bois. Et cette petite Laurine a déjà perdu sa mère quand elle était tout bébé, qui a été aussi assassinée. En tout, 14 meurtres de femmes ont eu lieu dans la région, affaires classées pour la plupart. Et une avocate, Déborah, va se donner pour but d'élucider ces crimes. Alors elle pousse les familles à créer des associations, à sortir les affaires pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à leur fille. Alors un prédateur sexuel, un serial killer, eh bien non. Le mythe du dégénéré, du marginal qui erre dans les bois en dehors de la société, la bave aux lèvres pour violer des jeunes filles ou des petites filles, est balayé dans ce roman par Marie Vindy, qui pointe du doigt une violence institutionnalisée face à une justice lente, muette, aveugle, voire complaisante. La justice a les moyens qu'elle se donne à scène Déborah à un moment du livre. Et on voit dans ce roman à quel point le corps des femmes est objectisé par les hommes dans la société et à quel point leur parole, leur mémoire et leur sécurité est prise à la légère et négligée par tout un appareil social et par tout un appareil judiciaire. Donc c'est un roman qui est féministe, qui est militant. Marie Vindy, c'est une militante féministe et une militante pour la cause des femmes. Et bien évidemment, c'est éminemment nécessaire aujourd'hui et ça ouvre un champ de réflexion nouveau dans le polar qui me paraît, moi, être une excellente nouvelle.
Eh ben, voilà qui est.
Wow.
C'est quasiment. Élise Lépine descend de la chaire. Elle vient de prononcer. Alors, réaction des heures.
Bah oui.
Barpo, parce que là, vous êtes quand même au cœur de vos thématiques, mais même régionales, puisqu'on trouve un peu des régions, ces régions
sûr.
Du côté de la Bourgogne, et puis la thématique du corps de la femme qui est soumis à exploitation.
Oui, oh bah, je rejoins complètement Élise Lépine. J'apprécie
Vindy.
Beaucoup Marie Vindy. Et bah, c'est vrai qu'on a fait ce constat-là, que le polar, c'est quand même un monde qui reste très, très masculin, dans son écriture aussi, dans tout. Donc il y a besoin d'avoir autre chose. Et alors, je la rejoins totalement sur la violence institutionnelle. Et sur la complaisance de la justice. Effectivement, le serial killer hyper, bon, vous disiez la bave aux lèvres, ça sert à rien, ça nous sert pas du tout, alors que bah, pour son cas, de la même façon que pour les torturés d'Apoigny, il y a une violence qui est institutionnelle, c'est évident, et des errances de la justice très très importantes.
Qu'est-ce que vous entendez par violence institutionnelle?
je peux même pas rentrer sur les torturés d'Apoigny. Ouais. C'est vraiment, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire que on a retrouvé des carnets de clients. Ces carnets de clients, ils sont arrivés jusqu'au palais de justice. Au palais de justice, ils ont tous disparu. Il y a un flic qui a essayé de travailler là-dessus, enfin un gendarme qui s'appelle le gendarme Jambert, qui est assez connu. Resté célèbre, notamment pour s'être suicidé de deux balles dans la tête. C'est une possibilité, mais sa famille récuse évidemment sa mort. Et toutes les pièces ont disparu du palais de justice. Tout ce qu'il avait amené pour prouver notamment des corrélations entre certaines affaires, tout a disparu. Et ce qui se dit, c'est que il y avait des clients qui étaient évidemment des personnes importantes, et que tout ça a disparu à cause de ça. Donc je la rejoins là-dessus. Ça sert à rien de parler de serial killer. Ce dont il faut parler, c'est à quel point la justice, la police peut dysfonctionner.
Eh ben, le débat est ouvert et le dossier n'est pas clos. En tout cas, on peut reciter le roman de Marie Vindy.
Justice soit-elle, chez Plomb, collection 109 de Marie Vindy.
Leyland Kirby dans la musique fait planer encore un peu plus de mystère sur les sujets que nous évoquons aujourd'hui dans Mauvais Genre sur France Culture. Alors depuis le début de cette émission, il est question du corps carnavalesque, carambolé, objet à la fois d'exaltation et de souffrance quasi infernale. On va retrouver un peu ce corps carnavalesque avec Topor, pas comptiellement, et avec la belle exposition donc qui se tient à la BNF et le catalogue qui est publié par les Cahiers Dessinés.
Ouais.
Donc, alors les expositions de Topor, il y en a quand même déjà eu un certain nombre. On ne peut pas dire que ce soit véritablement un sujet nouveau, ni un univers qui n'ait pas été élaboré un peu dans tous les sens. Alors, cette exposition de la BNF, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à la connaissance, je dirais, globale et en détail de l'univers de Topor?
Tout. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on a connu que des morceaux de Topor. On n'est pas encore arrivé au monde de Topor. L'expo s'appelle le monde de Topor, mais disons qu'on n'a jamais vu un monde de Topor aussi complet. L'exposition traverse toute l'œuvre de Topor. Il faut saluer le commissaire de cette exposition, Alexandre Devaux, qui, depuis plusieurs années déjà, fait tous ces livres qu'on trouve au Cahier Dessiné, avec Topor, et les livres, et les couvertures de livres, Topor dessinateur de presse, tous ces ouvrages où il est rentré dans cette quête infinie de retrouver tout Topor. Mais Topor, c'est une œuvre qui est tellement vaste. Elle comprend pas seulement le dessin d'humour, la peinture, l'art, mais elle comprend aussi la littérature. Il a écrit un grand nombre de romans, de nouvelles, scénarios de films, réalisations de films, films d'animation, émissions télé évidemment avec Téléchat. On passe et cette expo à la Bibliothèque nationale passe par tous ces univers-là. On commence avec le premier Topor, le Topor des dessins d'humour, même avant Harakiri, le Topor qui commence autour de Jacques Stenberg, qui est un peu inspiré par Ciné, qui a vu que Ciné faisait des sortes de figures un peu littératives. Il trouve son bonhomme, son petit bonhomme avec un chapeau, et il commence à explorer le dessin d'humour. Rencontre avec Harakiri, on a tout un pan aussi Topor-Harakiri, c'est le premier Harakiri, c'est le Harakiri d'avant l'interdiction. Et Topor fait les affiches d'Harakiri et aussi commence à faire des dessins d'une incroyable cruauté, d'une incroyable inventivité. Parallèlement, Topor écrit Locataire chimérique, La princesse Angine, Joko fête son anniversaire, tous ces romans incroyables. Et l'expo comprend ça, se déplace dans le Topor qui fait des illustrations de livres. Donc c'est les œuvres complètes de Marcel Aimé, c'est les contes de Perrault. C'est pas seulement des livres en France, c'est des livres dans le monde entier. Il y a tout, il y a même des... Moi j'ai été frappé en voyant l'expo par un truc que je pouvais pas imaginer parce que, il y a peut-être des fans... à mauvais de qui écoutent Mauvais Genre, mais moi j'ai jamais été un fan d'Eddy Mitchell. Je pouvais pas imaginer
ça viendra peut-être
qu'il y avait une pochette intérieure d'un album d'Eddy Mitchell, double pochette intérieure par Topor, mais d'une beauté, mais inouïe, un truc dingue. Bon, la pochette elle-même, c'est juste une photo d'Eddy Mitchell, donc moi j'aurais pas pris le disque. Mais quoi, quand on voit ça, on dit, mais je veux cet album.
Alors je l'ai sous les yeux, là, ça s'appelle La Marelle à Mitchell, il faut un dé. On joue une première fois pour la tête dans la vraie Marelle. On rejoue pour amener la petite fille dans la même case que la tête. On lancera le dé, bon et tout. Alors, effectivement, il y a un grand dessin qui est un nocturne avec la Marelle en blanc sur le sol. Et puis à côté, les chansons qui sont notées. Donc effectivement, il y a même dans la discographie d'Eddy Mitchell quelque chose de Topor.
Ah oui, et l'expo traverse tout ça. On a aussi des livres joués, des sortes d'ouvrages qui comprennent comme des sortes de jeux type Cluedo, avec enquête policière, avec des personnages qu'on met dans des situations que Topor faisait pour une industrie italienne. C'était des cadeaux de fin d'année qu'on donnait aux mecs du bureau, et c'était Topor qui les faisait. Et on voit ces objets-là. Alexandre Devaux a construit cette expo de façon extrêmement ingénieuse. Il a donc un mur incroyable avec les livres les plus étranges faits par Topor, parce que Topor a fait un nombre de publications incroyables, mais une centaine de livres.
C'est Wombat aujourd'hui qui en réédite.
Alors voilà, oui, disons deux, trois mots quand même sur qui réédite Topor, parce que c'est important. Topor, il était rentré presque, comment dire, il y a eu un moment gris pour l'œuvre de Topor. Là, elle revient vraiment à fond. Mais il y a eu un moment gris après la mort de Topor où ça se rééditait pas, où on les voyait plus, où on commençait un peu à l'oublier. Et sont revenus en force d'abord Wombat, qui a commencé à rééditer tous les textes, donc tous les livres de comme le Café Panique, La Cuisine Cannibale, Vache Noire, etc. Joko fête son anniversaire. Donc Wombat, le théâtre, ils ont réédité récemment tout le théâtre de Topor. Il y a Menu avec l'Apocalypse qui avait réédité le Pense-Bête de Topor, et il y a les Cahiers dessinés, donc Pajac avec l'aide d'Alexandre Devaux et évidemment du fils de Topor, Nicolas Topor, qui ressortent tous les dessins et qui va chercher tous les dessins. Et Alexandre Devaux, il n'est pas au bout de sa tâche. C'est-à-dire que Topor, c'est un peu comme Picasso. C'est genre, c'est un type, on a l'impression, alors qu'il avait l'air de mener la grande vie, de s'amuser tous les soirs, de sortir, de boire, de manger, de faire la fête, de rigoler, etc. En fait, tous les jours, il a accumulé une masse de travail, mais phénoménale. Et il y en a partout. En fait, il faudrait...
Il en a mis partout.
Alors, le monde de Topor, c'est bien. Prochaine étape, un musée Topor comme le musée Picasso. Au centre de Paris, genre dans le Marais, ou alors en 16e avenue des Boulainvilliers, là où il habitait. Un musée Topor. Alexandre Devaux, qui est conservateur.
La municipalité de Paris nous écoute. L'ouverture du musée Topor avec le discours de Paco Mtielman.
Comment s'appelle déjà la maire de Paris?
Madame Hidalgo.
Madame Hidalgo, on veut un musée Topor.
On vous attend pour le musée Topor. Réaction, Elsa Marpeau, vous êtes toporiste, toporienne?
Non, mais j'ai très envie, du coup, d'aller dans ce musée Topor.
Commencez d'abord par aller à la BNF. Voir l'exposition. On peut effectivement tout voir, depuis les couvertures de la collection Gore Fleuve Noir jusqu'aux affiches du Tambour, de Schlöndorff, en passant par Marcel Aimé, par tous les dessins politiques.
La planète interdite.
Cette capacité qu'il avait à investir comme ça, avec une plasticité infernale, tous les univers possibles, qu'ils soient publicitaires, la création la plus underground. Topor, omniprésent, Topor omniscient, Topor partout. Voilà, Topor partout. C'est tout. Cahier dessiné. Elsa Marpeau, on va continuer avec Twin Peaks. Vous aimez Twin Peaks?
Oui, bah, j'aurais du mal à dire le contraire.
Ah, bah, non, mais tout est possible.
On ne force personne.
J'adore.
Alors. Le monde ne cesse de remuer, de vibre à cette nouvelle grandiose. Twin Peaks reprend.
C'est une des choses les plus incroyables. On m'aurait dit ça même il y a 5 ans, j'y aurais pas cru. En fait, le truc incroyable, c'est que Twin Peaks s'est arrêté il y a 25 ans. La série s'était arrêtée faute de spectateurs, puisque la chaîne ABC avait demandé de régler l'affaire Laura Palmer, qui aurait dû jamais s'arrêter. On n'aurait jamais dû savoir le coupable. C'est le principe du tabou que la série exploitait si bien. Et à partir de ce moment-là, il y a eu tout un pataquès et la série a dû s'arrêter un peu trop tôt. Lynch a fait un film qui était un chef-d'œuvre, Fire Walk With Me, mais qui n'a pas rencontré son public à l'époque. Aujourd'hui, il ressort grâce à Potemkin et on se voit à quel point ce film était en avance, non seulement sur son temps, mais sur le nôtre. Et ça s'arrêtait là. Et on croyait que ça s'arrêterait là parce que les années passaient et on voyait plus le truc. Et puis les acteurs mouraient. Et puis Lynch passait à autre chose. Et puis ça faisait 10 ans que Lynch n'avait pas fait
et
de film.
Et donc là, dans la nouvelle aventure...
Le nouveau Twin Peaks, ce qui est fabuleux, c'est qu'il va à contre-courant de toutes ces opérations nostalgiques pourries, qui vont des nouveaux Star Wars, des reboots de Star Trek, des reboots de super-héros, et même du X-Files, qui est une telle déception, le nouveau X-Files. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de retrouver la magie de Twin Peaks. Il fait complètement autre chose avec Twin Peaks. Twin Peaks, le nouveau Twin Peaks, bien sûr, comprend des signes de Twin Peaks et continue le récit de Twin Peaks, qui est un récit sur la propagation du mal. Mais Bob a changé. Le modus operandi de Bob a changé. Twin Peaks ne se passait que dans la ville de Twin Peaks. Là, ça se passe dans le monde entier. Twin Peaks était orienté par rapport à une modélisation qui était un mélange entre le fantastique, le policier et surtout le soap opéra. Là, le soap est détruit. La musique est infime. On rentre dans un univers métaphysique inouï. En fait, on rentre véritablement dans le monde des formes en suspens.
Très bien. Nous y retournerons pour les prochains. L'épisode de Pacôme Thielman termine cette émission, bien sûr, avec Christophe Beer.
En 2008, quand Ciné est salement licencié de Charlie Hebdo et s'en va créer Ciné Hebdo, le milieu très fermé et endémique de la presse satirique française vacille. Ce moment charnière voit s'imposer des dessinateurs qui jusqu'alors galéraient. Yves Pacula, alias Pac-Man, est l'un des plus remarquables. Formé au graphisme à l'école Estienne, féru de cinéma, il aiguise son acuité pendant 25 ans dans la publicité, storyboard des idées qui font mouche, dans des spots qui n'excèdent parfois pas les 3 secondes et développe le sens du cadrage et de la perspective. Ses croquis noirs et blancs, à la ligne parfaite, rehaussés d'une touche de couleur, très souvent le rouge primaire fétiche, délimitent un cadre serré, acéré, qui affine des constats glaçants sur les événements, les rouages, les soubresauts absurdes de l'actualité. C'est noir, rouge comme le sang, ajustant le tir d'un jeu de massacre corrosif. Issu d'une famille de gauche, fils d'un mineur du Pas-de-Calais devenu chaudronnier et d'une mère infirmière, ancienne militante aux Jeunesses ouvrières chrétiennes, Pac-Man cible l'oppression, les injustices, l'immoralité et le cynisme de classe des puissants dans la grande tradition anarchiste et virulente de l'assiette au beurre. Grâce à la pub, il affûte des messages chocs, symbolisant la folie de l'Eurofoot, ce gigantesque show de beaufitude, en remplaçant les cerveaux des supporters par des ballons ronds. Il excelle dans l'allégorie pessimiste, transformant les urnes d'un bureau de vote démocratique en cuvette de WC. Parfois, il se contente de matérialiser les mots. Puisque les clients grugés par Madoff sont des pigeons, il les croque palmipèdes. Puisque Israël est en plein boom immobilier, les immeubles en construction prennent la forme de grenades géantes. Sa caricature va au bout des idées les plus macabres, qui en feraient un excellent illustrateur fantastique. Hélas, ces traders à dentition de vampires, ces conseillers bancaires aux corps d'aliens, sont des plus réalistes. L'actualité cède le terrain à une poésie drôlatique proche de Topor. Notre vie est un cauchemar kafkaïen désespérant. Les autoroutes imposées de la rigueur et de l'austérité débouchent sur le même précipice tragique. Les dessins les plus forts de Pac-Man ont cette qualité paradoxale. Ils ne font plus rire, ou bien en s'étranglant, avec la sensation perturbante que ce sera le rire ultime de l'homme condamné à mort. Après « Ne jetons pas le bébé avec l'eau du boudin », plaquette auto-éditée, Pac-Man connaît sa première monographie, « Rouge, sang et humour noir » par Elodie Cabrera chez Critère Édition, numéro 5 de la collection Les Iconovores, entre Faujour et Willem. Belle consécration à laquelle Ciné n'aurait pas manqué de lever un verre de Morgon.
Merci Christophe Beer, merci Elsa Marpeau d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Je rappelle votre roman La Série Noire, Les Corps Brisés. Je signale également Justice Soit-elle de Marie Vindy chez 109. Et puis très beau catalogue de l'exposition Topor à la BNF. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Philippe Mercier, Claire-Martin Dugard, Chloé Leblon, Céline Duchesnet, Élise Lépine, Pacôme Thielman, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi l'émission. On se retrouve samedi prochain avec Raphaël Emery pour Pornarina. D'ici là, bonne soirée à l'écoute de France Culture, on retrouve Amaury Chardot pour Métronomique.